Poker Menteur.
Poker Menteur.
Avec Geneviève Huglot, dans le rôle de Geneviève Huglot.
Et Patrick Trouilloux dans le rôle de Patrick Trouilloux.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
L'émission qui interroge le monde.
De Villefranche à Tataouine.
Galade. 100.9.
Auditeur de Calade, bonjour, c'est Poker Menteur, votre émission mensuelle favorite. Je suis très arrogant en disant ça, mais c'est pas grave. Poker Menteur, c'est une émission donc mensuelle, comme je viens d'indiquer, qui existe depuis plusieurs années. C'est notre compère Franck Bonnet qui l'avait créé avec un ami à lui, puis je l'ai remplacé fin 2018 de mémoire. L'émission est passée de une demi-heure à une heure, et puis finalement les troupes se sont étoffées. Nous avons intégré Geneviève, Huglot, Jean-François Arnaud, et plus récemment nous venons d'intégrer Emma Vialard, et ça commence à faire du monde, donc nous avons dû jouer, vous savez, au petit jeu là où on court autour d'une chaise, comment ça s'appelle ce jeu là?
Les chaises musicales.
Les chaises musicales, voilà, et c'est Franck qui a perdu, et donc nous annonçons que notre cher Franck Bonnet va quitter l'émission. En fait, non, c'est parce qu'il a désiré passer à d'autres aventures.
C'est bien, Patrick, comme musicale. Tu le présentes, parce que finalement, on est un peu triste en vrai, mais,
voilà.
Mais c'est bien, tu présentes ça.
C'est l'occasion de rendre un hommage ému à notre cher Franck Bonnet. On le salue et on lui souhaite de bonnes aventures.
On lui fait des tunnels de cœur.
Exactement, ça c'est très girly. Et comme désormais on est à la parité, tout va bien.
Enfin.
Donc, nous sommes tous ensemble ce soir avec Jean-François qui est à la technique, donc se sacrifie doublement. Donc, Emma, bonjour. Geneviève.
Bonsoir à tous.
Et moi-même. Alors, on va se faire une petite émission, comme ça, au débeauté, sans thème central, où on va aborder chacun un thème différent et on va discuter de façon plus ou moins à bâton rompu. On va essayer de ne pas se taper dessus non plus, en toute amitié. Et on verra ça. Honneur aux dames pour commencer. Donc, nous allons commencer avec Geneviève, mais pour se lancer dans le bain, Geneviève, si nous écoutions un morceau de cru.
En rentrant de l'école.
Vous allez voir, c'est tout à fait. En rentrant de l'école. C'est parti, Jean-François.
En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées, et puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un tournant la manivelle d'un petit sous-marin, plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait, fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler, rouler derrière l'hiver, et on l'a écrasé, et la maison s'est arrêtée, et le printemps nous a salués.
C'était lui le garde-barrière, et il nous a bien remerciés.
Et toutes les fleurs de la terre soudain se sont mises à pousser, pousser à tort et à travers, sur la voie du chemin de fer qui ne voulait plus avancer de peur de les abîmer. Alors on est revenu à pied. À pied. Tout autour de la terre. À pied, tout autour. la lune et des étoiles. À pied, à cheval, en voiture et en bateau à voile.
Poker menteur.
Poker menteur.
Calade.
Yeah, 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 là. Yeah, 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 là.
Vous écoutez Poker menteur.
Bienvenue
sur
à Bamako.
Calade.
Zéro, hein.
Et là, on a eu une intrusion. Donc, mis à part l'intrusion, Geneviève, c'était quoi cette musique, rappelle-nous ?
Alors, évidemment, ce n'est pas en rentrant de l'école, mais bien sûr en sortant de l'école. J'espère que vous l'aviez aussi à la maison.
Moins un de Geneviève.
Et alors, en sortant de l'école, qu'est-ce qu'on fait ? On part ?
Bon, on brûle les cahiers et on dit
à
mort les profs.
On part en vacances.
Ah, d'accord. Ok, très bien.
Je t'interromps à temps, hein, Patrick, avant que tu dises d'autres choses.
Donc là, tu nous fais une introduction absolument brillante à ton sujet, alors.
Exact. Et en plus, ouais, je sais pas, il y a un petit timing, non ? Je crois qu'on est, fin
ouais,
juin,
ça
là.
Ça sent les vacances, ouais.
Ouais, ça sent les vacances. Je sais pas ce que vous en dites à la maison, mais voilà, on a envie d'ailleurs, on a envie de profiter peut-être un petit peu du temps différemment. Alors, si vous êtes des chanceux, j'espère que vous allez avoir quelques jours pour en profiter. Et puis, il est même fort probable que si vous faites partie de ces bienheureux, eh bien, vous avez peut-être déjà des choses de prévues, des choses bookées. Ou peut-être pas, comme moi. Et peut-être même que vous vous posez la même question, à savoir, entre canicule et puis envie de profiter de l'été, et si on partait autrement, en fait ? Pas uniquement en tour opérateur, en avion, et juste on se pose les fesses sur un transat, et puis en fait, on fait ça... à Dubaï, à Athènes,
voilà, tout à fait.
Ou à la Cano, et c'est
les
pareil en fait.
Destination préférée à la mode chez les gros bourrins, Dubaï.
Commençons. Alors, attention, on a le droit de partir à Dubaï.
Ah, on a le droit
d'être
des gros bourrins, il n'y a pas de problème.
À l'aventure. En fait, c'est ça le propos. C'est que partir, donc je vais tout de suite placer le sujet avec le vocabulaire qui va avec, hein, ça veut dire partir en étant éco-responsable, c'est-à-dire.
Oui.
En étant respectueux donc, de l'environnement, en étant respectueux des populations, des enjeux économiques, sociaux, et puis en étant respectueux de la planète qu'on va laisser à nos enfants.
C'est ce qu'on appelle l'écotourisme, alors.
Exactement.
D'accord.
C'est tout à fait le terme, Patrick. Bravo. Eh bien, si on fait attention à sa destination, on se rend compte que, en fait, il y a plein d'agences de voyage qui se sont positionnées sur ce créneau. J'étais assez bluffée. Voilà, des agences qui datent pour la plupart de 2020, je ne sais pas.
Il y a eu un accélérateur au niveau des événements, un accélérateur de prise de conscience.
Exactement, du monde d'après. Voilà.
C'est exactement le monde d'après,
c'est plutôt bon signe. Voilà, alors pour tout vous dire, même Decathlon s'est mis sur le créneau. Decathlon propose des vacances à vélo, à dos d'âne, à cheval. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en dites, mais alors, sans entrer dans l'excès ni dans la polémique lancée par Giancovici sur un permis de voyager...
Ça ne se prononce pas comme ça. On dit Giancovici, tout bêtement.
C'est beaucoup plus classe comme
pinaille.
Ça.
Je pinaille. Oui, non, mais non, il n'est pas d'origine italienne.
Oh, la rigueur
mais loin.
De Patrick.
En tout cas, ça se prononce Giancovici. Alors, qu'est-ce qu'il a dit comme polémique ?
Eh bien, en fait, Giancovici a... C'est bon, je l'ai bien prononcé, c'est
tout. Ouais, ouais, bravo.
Voilà, honte à moi. Paf. A expliqué qu'il fallait autoriser que 4 voyages par avion pour les jeunes voyageurs et que quand on était plus vieux, on n'avait qu'à préférer le train ou de rester chez soi.
Quand tu dis 4 voyages, c'est sur toute la vie ou par an ?
Toute la vie.
Sur toute la vie, oui, ça fait une grosse différence. Hein,
ouais.
Parce que 4 voyages par an, ça ferait beaucoup.
Ça ferait déjà beaucoup trop, en fait.
Si on veut aller au bout de la logique, si on veut vraiment maîtriser le réchauffement climatique, limiter les dégâts, il faudrait faire ça, tout à fait. Ce qui, là, tout de suite, relativise énormément les pratiques touristiques de la plupart de nos congénères. Hein.
Oui, y compris les miennes. Je me place tout à fait dans le lot. Alors, envie de partir autrement, ça veut dire peut-être aussi pratiquer ce qu'on peut appeler le slow living, c'est-à-dire prendre le temps et que quelque part le trajet fait partie intégrante du voyage.
Ouais. Oh là là.
Alors moi j'ai
tu
un super exemple.
Donc tout va bien.
j'ai une amie cette année qui part avec son mari et ses filles à vélo jusqu'à la mer. Donc, ils se font un camping par soir. Et puis, arrivés à la mer, ils passent une semaine là-bas. Après, en revanche, ils rentrent en train.
Oh, les fainéants.
Bon, voilà, c'est quand même hyper sympa comme vacances. Moi, je trouve ça génial.
Classe.
Ah, tout le monde n'est pas prof. Hein. On ne peut pas tous partir 3 semaines, Patrick.
Non, mais c'est une question de muscle aussi. Hein. C'est fatigant le vélo quand même.
Voilà, le retour est moins motivant que l'aller. Deux filles qui ont allez, 7 et 10, un truc comme ça. Et,
d'accord.
Et ouais, ouais. Sont Bravo. Hyper motivées.
Bravo.
Bah, c'est exactement ce genre de projet que j'ai moi aussi pour cet été.
Wow.
Trop bien.
En vélo aussi ?
En vélo aussi.
Ouais, bravo. Ouais. Bravo.
Voilà. Et alors l'idée, ce serait, sans rentrer donc dans l'extrémisme du que 4 voyages en avion pour toute sa vie, peut-être on peut aussi avoir cette réflexion. Voilà, je fais un voyage à l'étranger, je vais évidemment exploser mon empreinte carbone. Peut-être derrière, il existe que vous pouvez compenser en fait ce surcroît d'empreinte carbone, eh ben, tout simplement en ayant une bonne action sur des sites engagés, ou en reversant de l'argent pour une bonne cause qui
D'accord.
pourrait permettre du coup d'équilibrer un petit peu la colonne dépenses, la colonne recettes.
D'accord.
Voilà, et puis d'être attentif tout simplement. Alors si voilà, moi les petits conseils que je me donne à moi-même, hein, mais que je partage avec vous évidemment, ben voilà, de préférer une réservation directe plutôt que de se dire ben je passe par une centrale qui fait tout pour moi. Voilà. De préférer aussi un logement qui soit responsable et respectueux des endroits où qui permet de rencontrer aussi des gens authentiques et pas uniquement des touristes qui parlent anglais, français, espagnol. Voilà. Il existe des labels qui permettent d'avoir une visibilité sur la démarche qualité des lieux d'accueil, des lieux qu'on peut fréquenter.
C'est quoi ce label ?
Alors, il y en existe plusieurs. Hein. Il existe des labels verts, il existe des labels écotourisme. Hein.
Okay.
D'accord. Voilà.
Je peux même retrouver, si vous voulez. Alors, j'explique que je passe mes vacances comme ça, mais je ne passe évidemment auprès de personne pour faire de la publicité, donc je ne vais pas citer de site précis.
Ah, d'accord.
Bien sûr. Pour autant, si je reprends...
Donc, pendant que tu cherches, on peut résumer en disant il y a deux aspects. Il y a l'aspect du bilan carbone, je dirais, du déplacement. Et ça, ben, si vous prenez l'avion, c'est la cata. Donc, privilégiez les autres modes, genre le train, par exemple. Le train, c'est bon, on peut aller à l'étranger. Hein, si on y va en train, le bilan carbone, il n'y a plus rien à voir. Hein.
Tout à fait.
Et le deuxième aspect, c'est après la forme de tourisme sur place. Et là, je pense que les labels dont tu parles, c'est plutôt sur le deuxième aspect.
Oui. Alors, label bas carbone... Voilà.
Okay.
Qui propose donc un site sur lequel vous pouvez trouver donc des idées pour vous inspirer, tout simplement. Et dans un second temps, et tu as tout à fait raison, donc de privilégier donc des logements éco-responsables, des logements qui ont aussi une empreinte peut-être zéro déchet. Hein, si vous êtes engagé jusque-là, c'est chouette aussi de le faire pendant les vacances, de ne pas perdre les bonnes habitudes. Donc il existe aussi des plateformes de réservation, donc type WeGoGreen, Airbnb, voilà, une petite alternative sympathique, voilà, qui fonctionne très bien, Fairbooking, Oiseau de passage, etc.
D'accord.
Voilà, et évidemment privilégier aussi des destinations dont on sait qu'elles sont voilà, plus respectueuses de l'environnement que d'autres. Alors on peut, le modèle économique du Costa Rica me semble à ce propos tout à fait exemplaire, puisqu'aujourd'hui, c'est un pays qui s'est engagé justement pour accueillir alors, touristes ou voyageurs. C'est peut-être là où je vais aussi positionner le mot voyageur, qui me semble plus adéquat que touriste. Donc, de façon plus respectueuse, dans des hôtels qui s'engagent à faire travailler la population dans des conditions respectueuses, et pas uniquement d'être dans une exploitation touristique qui, finalement, est contre-productive.
Très bien. Très bien. Merci, Geneviève. Tu as terminé ou tu avais d'autres choses à rajouter sur ce sujet ?
Je peux sûrement avoir plein de choses à dire, mais...
Des questions, messieurs, dames ?
C'est tout bon pour moi.
Vous êtes tous convaincus ?
Ouais, moi, je trouve ça super.
Bravo, très bien.
Je vais y songer aussi.
On aura peut-être l'occasion d'y revenir plus longuement dans le cadre d'une émission Poker Menteur l'année prochaine, mais qui abordera ça plus en détail. Ce serait une bonne idée, n'est-ce pas ?
Eh bien, écoute, je la saisis.
Voilà, rendez-vous dans un an à peu près. Très bien, nous allons faire une deuxième pause musicale. Qu'est-ce qu'on va écouter ? Bougez pas. Alors, on va demander à Jean-François, on écoute quoi ?
On va écouter Florent Marché et sa chanson « De justesse ».
Super, c'est parti.
Un noyau de cerise, 4 ans la chaise haute, et les doigts dans la prise, juste avant qu'on les ôte. de justesse. 12 ans, vif écorché, la rivière, les Cévennes, sauter du grand rocher et s'en sortir indemne. De justesse, promets-moi mon amour de passer ton tour. Promets-moi mon enfant de rester vivant. Les soirées du lycée, à faire plus que son âge, le pantalon baissé, fais-le ou tu dégages. En vitesse, ne plus rien avaler et peser sans mal-être. On allait se jeter, mais on ferme la fenêtre. De justesse, promets-moi mon amour de passer ton tour. Promets-moi mon enfant de rester vivant. J'y pense tout le temps. Morito, glace pilée, la bagnole qui va vite, ne rien faire à moitié et fêter ses 18. De justesse. C'est la nuit, c'est l'été, dans le ciel bleu pétrole, les platanes argentés, parfois on a du bol. Dans l'ivresse, promets-moi mon amour de passer ton tour. Promets-moi mon enfant de rester vivant. Promets-moi mon amour de passer ton tour. Promets-moi mon enfant de rester vivant. De rester vivant. J'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps.
Poker menteur.
Poker menteur.
Calade.
Vous écoutez Poker menteur sur Calade. Notre émission mensuelle est une émission au fil de l'eau avec les quatre comparses de Poker menteur. Maintenant que Franck Bonnet est parti pour d'autres aventures, donc Geneviève qui vient de nous parler de l'écotourisme, Emma qui nous parlera, on ne sait pas quoi c'est la surprise tout à l'heure, moi-même,
ah oui,
votre serviteur.
Hein.
Voilà, exactement. Mais c'est Jean-François qui va prendre la parole. Déjà, on a écouté quoi, Jean-François?
Bon, on a écouté Florent Marché avec De Justesse, issu de son dernier album, qui parle un petit peu de la parentalité et de la peur de perdre son enfant. Voilà.
Oula, ouais. Damned. Très bien. De quoi tu veux nous parler?
Eh bien, maintenant, j'ai envie de rester dans le train un petit peu, dans le train qui est un sujet plutôt valorisé et qu'on essaie de développer,
ouais,
mais
fait.
Qui fait débat en ce moment à propos de la ligne ferroviaire Lyon-Turin.
Alors, c'est ce qu'on appelle un marronnier Lyon-Turin, ça fait juste 40 ans qu'on en parle.
C'est un vieux serpent de mer, effectivement, parce que c'est un projet qui est né dans les années 80 et qui n'a toujours pas abouti. Mais néanmoins, il est censé être en route en 2032. Mm-hmm. Le chantier a débuté en 1992, pardon. Aujourd'hui, il y a seulement 32,9 km, pour être précis, de galeries qui ont été creusées, de tunnels creusés. Et c'est un sujet qui divise considérablement entre les écologistes, qui sont des activistes, des militants essentiellement, alors que de prime abord, le sujet paraît
c'est ça qui est étonnant.
Un sujet écolo.
C'est qu'on devrait dire le train, bon, c'est écolo, donc ils devraient être d'accord. Donc s'ils ne sont pas d'accord, il y aura des raisons.
C'est il y aura des raisons. Alors je vais quand même présenter avant tout les arguments qui sont favorables au Lyon-Turin. Alors déjà, en reliant Lyon à Turin, cette ligne ferroviaire, qui est longue de 160 km à peu près, doit relier le nord d'Italie, qui est une région très très industrielle, à la France, d'accord ? Et à la dynamique région lyonnaise. Et ça permet ainsi de diminuer un petit peu la dépendance de la France à l'égard de la Chine, parce qu'on peut réussir à échanger avec l'Italie de manière plus régulière et plus facile, en faisant plus d'échanges.
Quel rapport avec les Chinois ?
Et bien justement, ça, on sera moins dépendant de la Chine grâce à ça.
Les marchandises transitent par l'Italie ?
Elles peuvent, oui, effectivement. Donc on fera davantage d'échanges directement
avec l'Italie. C'est dans ce sens-là. Voilà. D'accord. Donc l'idée, ce serait de diminuer un petit peu les flux routiers.
Oui, voilà.
D'accord. Moins d'embouteillages.
Ouais, c'est clair. Ouais.
Donc, moins de...
Et ça va être un puissant moteur de développement régional qui permettrait, avec sa ligne à grande vitesse, de réduire le temps de trajet. Ça aussi, ça va être super intéressant.
Ça, c'est clair.
Parce que Lyon-Turin, on ne ferait plus qu'en 1h47, alors qu'aujourd'hui, c'est 2 heures de plus. Donc forcément, c'est quand même beaucoup plus avantageux. Et on pourrait aussi rejoindre Milan à Paris de manière beaucoup plus rapide, avec en 4h30 au lieu de 7h aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment galère pour rejoindre les deux grandes villes économiques que sont Paris et Milan. Le patronat italien, forcément, est favorable. Il estime qu'il y a à peu près 50 000 emplois en jeu liés dans le projet. D'accord. Donc c'est un projet qui est vraiment très largement plébiscité en Italie. Même s'il y a quand même le mouvement 5 étoiles qui est un peu opposé, mais tout le reste, le gouvernement italien, les patrons italiens sont pour, et les Italiens globalement sont vraiment pour ce projet. En France, l'État et la région Auvergne-Rhône-Alpes sont aussi des partenaires importants du projet et subventionnent ce projet. D'ailleurs, le gouvernement a promis de débloquer 3 milliards quand même d'euros de crédit pour faire avancer ce projet. L'argument avancé d'ailleurs par le gouvernement, c'est l'argument écologique, en disant que ce projet doit désengorger les vallées de la Maurienne et de l'Arve, qui sont particulièrement
très polluées,
à cause d'un million de camions qui passent et qui seraient maintenant passés sur le train. Donc on pourrait avoir du ferroutage, effectivement, Geneviève, tout à fait.
J'ai eu un point là.
Bravo
Geneviève.
Ça permettrait de baisser les émissions de gaz à effet de serre et on estime à peu près un million de tonnes quand même d'équivalent de CO2, qui serait parti. Ça, c'est à peu près la production d'une ville de 300 000 habitants. C'est quand même pas rien.
Bah alors attends, c'est super. Pourquoi tout le monde n'est pas d'accord ?
Et du coup, c'est pas étonnant de voir les élus locaux qui sont dedans là-dessus. Donc on a par exemple la députée LR de la Savoie, Émilie Bonivard, qui est à fond dedans. Il y a le maire aussi de Saint-Jean-de-Maurienne, donc un élu local qui est à fond dedans. Voilà. Mais malgré tout, pour rebondir ce que disait Geneviève, tout le monde n'est pas dedans. Pourquoi ? Parce que c'est justement au nom de l'écologie que se sont rassemblés samedi dernier, là, le 17 juin, 4000 militants pour protester contre ce projet. Ils ont bloqué l'autoroute, notamment.
Ouais, avec des, effectivement, manifestations assez...
Assez rude.
Assez rude, oui.
Comme on les connaît actuellement.
Ouais.
Alors, ces militants, ils sont menés par les soulèvements de la Terre, qui sont d'ailleurs en passe d'être... disloqué par le gouvernement, je ne sais pas si vous avez...
Dissous, non, plutôt.
Ah,
dissous,
disloqué.
Non, pas la torture moyenâgeuse.
Oui, mais...
On ne soumet plus personne à la question.
C'est un sujet en lui-même qui pourrait faire l'objet de développement, mais on va laisser de côté, on en parlera à un autre moment.
Ouais. On a les Italiens aussi de Notav. Notav, ça veut dire contre les lignes à grande vitesse en italien, simplement, qui sont contre là-dessus, qui étaient présents également en samedi. Et eux, ils dénoncent en fait l'impact écologique d'un chantier qui est vraiment titanesque, puisqu'il implique le forage de 260 km de galeries à travers les massifs alpins. Mm-hmm. Et cela entraîne des dizaines de millions de tonnes de déchets et aussi l'artificialisation de 1500 hectares de terres agricoles.
D'accord.
Voilà. Donc ça, vraiment.
Ça, c'est pas non plus très. Et sur les écosystèmes, du coup, ça a aussi un impact.
Et ça a un impact très fort sur les écosystèmes et détruirait les écosystèmes. Écosystèmes locaux, les cycles de l'eau, effectivement, certaines sources également qui vont être détruites à cause de cela. En plus, autre argument, c'est le coût de ces travaux, puisqu'ils sont estimés à 26 milliards d'euros quand même, c'est pas rien. D'autant plus qu'on a déjà une ligne qui existe, une ligne de ferroutage qui existe, mais qui est très peu utilisée et qui est très peu mise en avant. Du coup, on a des élus d'Europe Écologie et Le Vert qui comme Grégory Doucet, le maire de Lyon, ou alors Éric Piolle, le maire de Grenoble, qui soutiennent les manifestants. Éric Piolle, lui, pense que l'argent qu'on met dans ce projet-là, on devrait le mettre dans la mise aux normes ou en tout cas la modernisation des lignes de TER en France. et pourquoi pas à Grenoble, par exemple. Mmh. Et puis l'argument du ferroutage aussi est assez rapidement battu en brèche, parce que on estime qu'il faut à peu près, ça va être ouvert qu'en 2032 seulement le tunnel, d'accord. Mmh. Et d'ici 2032, les militants écologistes estiment que les camions pourront rouler à l'hydrogène et du coup que forcément leur coût en CO2 sera beaucoup moins. Ils s'emballent un petit peu, ils sont quand même très très optimistes sur cela là-dedans. Malgré tout, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'après Notre-Dame-des-Landes, on peut quand même observer que la France connaît une recrudescence du militantisme, d'une écologie de la décroissance, qui ne veut plus aucun grand projet, hein, d'accord ? Les grands projets en France, maintenant, sont tous retoqués par ces militants-là. Et au final, ce projet illustre les difficultés à concilier des intérêts économiques et des intérêts écologiques, et parfois même la lutte contre le dérèglement climatique et la préservation de la biodiversité.
Alors, juste une remarque, en fait. Oui, c'est vrai que récemment, il y a des positions, mais qui se défendent plus strictes de la part de militants contre l'artificialisation. Et c'est normal, parce que quand on met en lien cette question avec les rapports du GIEC, en fait, un des éléments, c'est qu'il faut arrêter d'artificialiser. Ouais, donc, c'est OK. Par contre, ce qu'on sait, c'est que cette opposition au tunnel de Turin, elle remonte à des décennies. Donc, il y a des décennies, disons années 80-90, désolé, l'artificialisation, ce n'était pas une thématique majeure. Donc, ce n'est pas cette thématique-là qui est décisive. C'est ça que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui est décisif dans la position des anti. Alors, il y a le coût. Hein. C'est vrai que le coût, après, on devient complètement rationnel, voire un peu logique d'économique. OK, 32 milliards, on va en faire quoi ? Avantages ? Tiens, si on les emploie autrement, peut-être qu'on aura de meilleurs avantages. Là, c'est à écouter quand même. Hein. Puis c'est un des arguments qui peut être rationnel, ça.
Il y a des coûts aussi pour la liaison c'est cher quand même, hein. Le tunnel et Lyon, finalement, qui vont être très importants aussi. Ouais. Voilà, pour rejoindre.
Puis le ferroutage, c'est bien gentil, mais en fait, le ferroutage est en train de s'effondrer.
Oui,
Déjà, en premier, par une absence d'investissement total de la part de l'État. Donc, on vient de nous raconter que le ferroutage va sauver. Non, c'est une blague. S'il s'effondre, il se réfondra. Il fonctionnera pas dans
l'industrie française, finalement, donc qui ne promeut pas des échanges.
OK, mais il n'y a pas que l'industrie. Le ferroutage peut servir dans les transports. On voit qu'il y a beaucoup de camions, mais le problème, c'est qu'on ne vienne pas nous sortir l'argument du ferroutage alors que le ferroutage s'effondre. Il y a quand même de la mauvaise foi. C'est un sujet assez complexe quand même. Hein. Ce serait intéressant de trouver des analyses de fond de la part d'organismes alors moins engagés dans la militance ou alors avec des vraies compétences,
Après, ce que j'ai pu lire sur Internet, c'est vraiment ce genre de sujet. Militantisme, ça va pas. C'est ce que je vous ai développé là, quoi.
C'est du militantisme qui dure depuis des décennies, donc il y a quelque chose de solide derrière, quand même. Je veux dire, on se bat pas pendant des décennies sans qu'il y ait quand même des arguments assez solides. Bon, écoutez, c'est un sujet quand même tout à fait intéressant et qui n'est pas tranché, comme vous le voyez, à moins que Emma veuille trancher. Tu veux trancher, Emma ?
Je ne tranche pas.
Je suis déçue, Emma. Je croyais que tu voulais trancher.
Je crois que vraiment, c'est à chacun à trancher en fonction de... Je suis désolée, je n'ouvre pas le débat,
non,
mais...
tu es notre sage, Geneviève. Merci.
Moi, mon point de vue, quand même, vraiment, c'est qu'à un moment... Qu'est-ce qu'on veut, en fait ? Qu'est-ce qu'on veut consommer ? Est-ce que c'est utile de continuer à faire parvenir jusqu'à nous des containers remplis d'objets made in China ? Ou est-ce qu'on veut développer aussi peut-être un peu plus des choses locales, consommer différemment, consommer mieux ?
D'accord.
Et regardez la belle verte. Colline Serrault.
Je la place à toutes les sauces.
La belle verte de Colline Serrault.
Ça y est, ça s'est fait. Donc, chers auditeurs, je vous dis, ça s'est fait pour cette émission.
Pas fini d'entendre parler. Bien, nous allons remercier Jean-François et nous allons écouter un nouveau morceau. Emma, qu'est-ce qu'on va écouter ?
On va écouter Don't Let Me Down des Beatles.
Oh, ça, c'est trop cool.
Don't let me down.
Poker Menteur.
Calade.
Vous écoutez Poker Menteur sur Calade, notre émission mensuelle au fil de l'eau avec Geneviève, Jean-François, Emma et moi-même. Donc nous venons de parler, merci Jean-François, donc du projet de train Turin-Lyon. Nous venons ensuite d'écouter Transition grâce à Emma, les Beatles, c'est toujours une bonne idée, Don't Let Me Down.
C'est mon mood du moment.
Et nous t'en remercions. De quoi veux-tu nous parler, Emma ?
Alors moi, je vais changer un peu de thème. On va parler cinéma et féminisme.
Ouais.
Parfait, trop cool.
Je vais m'appuyer principalement sur l'ouvrage « Sous nos yeux » d'Iris Bray et Myrion Mal, dont le sous-titre est « Petit manifeste pour une révolution du regard ». Alors, est-ce que vous êtes prêts à changer un peu de regard ?
Totalement.
On te suit.
Alors, je vous propose de vous lire vraiment le tout début de l'introduction de cet ouvrage.
Ah bah, ça commence bien.
Toutes et tous, nous grandissons et nous baignons dans un monde où règnent les images. La publicité, les films, les séries, les jeux vidéo. Ces images ont une influence sur ce qui nous sommes, sur ce que nous pensons, sur notre manière de vivre et d'aimer. Parmi toutes ces images, la manière dont on filme le corps des femmes et des hommes a un impact sur nos vies. C'est quelque chose que j'ai compris très tardivement. Alors, c'est les autrices hein, qui disent ça, mais je suis assez d'accord, en fait. Dans les films avec lesquels j'ai grandi, les femmes étaient filmées comme des beaux objets. Elles parlaient peu et dégageaient un mélange d'érotisme et de naïveté. Ce que le cinéma nous racontait, c'était qu'il fallait être ce genre de femme pour plaire aux hommes. Mmh. En gros, donc là j'ai fini ma citation, hein, dans la plupart des films et des séries, jusqu'à il y a peu, le message adressé aux femmes, c'était « Marie-toi, fais des enfants et laisse les vrais mecs agir !» Mmh. Alors, heureusement, les autrices hein, nous disent qu'on a l'arrivée de nouvelles séries comme Girls ou Orange is the New Black.
Je suis
toujours pas forte en anglais, désolé les amis. Et que ça commence un
Orange
petit peu à changer la donne.
Vous
la connaissez un peu cette série ?
De nom, je l'ai pas vue.
Un petit peu Orange is the New Black, ouais, c'est pas mal pour voir différents portraits de femmes, effectivement.
Ouais, du coup, on a un des portraits de femmes
ouais,
un peu plus multiples.
Très variés,
plus variés
qu'habituellement. À la lesbienne, à la mère de famille aussi, il y a un peu de tout. Voilà.
Ok, donc voilà, on vous laissera découvrir. Alors, les autrices, en fait, dans ce petit essai, hein, elles évoquent plusieurs aspects du cinéma qui devraient nous interpeller. Et bien, en fait, je ne sais pas vous, mais moi, je ne me rendais pas vraiment compte, finalement. Parce qu'en fait, on baigne tellement dans cet univers depuis toujours qu'on ne fait plus attention. Si on prend les Disney, les héroïnes féminines, elles existent, mais elles ne sont là que pour trouver l'amour, le prince charmant. Et même si parfois elles ont du caractère, il faut attendre vraiment ces dernières années pour voir des héroïnes dont la seule préoccupation n'est pas de trouver un mari et d'avoir des enfants quand même.
Mmh. Oui, finalement, là, tu es en train de nous dire que La Reine des Neiges, c'est un chouette film à voir.
Alors, je ne l'ai pas vu, mais voilà, je te laisse...
Libérer et délivrer.
Donc, ça a été un des premiers qui intègre un peu cette dimension-là.
Une autre image de la femme.
Et ça peut expliquer notamment son succès monstrueux. Hein.
Ça a été un
des plus gros succès de l'histoire de Disney. Hein. Mmh. Oui, tout à fait.
Alors, du coup, je vais évoquer quelques-uns de ces aspects. En premier lieu, la manière dont est filmé le corps des femmes. En fait, il y a trois plans qui sont principalement utilisés. Le panorama vertical, où on va partir des pieds, remonter lentement, et on va découvrir le visage vraiment en dernier.
Ouais.
En fait, c'est un plan qui est souvent utilisé quand les femmes se déshabillent. Et du coup, ben, qu'est-ce qu'on fait? On les montre comme un objet plutôt que comme une personne. Hein. Le visage, c'est très secondaire. On va vraiment
On passe par toutes les parties stratégiques préalablement.
Exactement.
Les jambes,
comme
les fesses.
Tout à fait.
Et est-ce qu'il y a au-dessus?
Alors, non, c'est dans le même genre, on va avoir...
Ça sert à ça, ces plans.
Mais tout à fait. Dans le même genre, le gros plan qui va zoomer sur les parties érotiques, hein, les seins, les fesses, les hanches, etc. Qui fait qu'on ne va pas voir un être humain à part entière, mais seulement des morceaux.
Ouais,
hein, des morceaux de corps érotisés. Mmh. Et puis, l'éternel ralenti, cheveux dans le vent. Souvent, c'est pour les scènes de rencontres. Et en fait, on nous montre encore une fois une image de femme figée où le physique prime.
Ouais, ça
marche bien pour Top Gun aussi. Hein.
Ah, mais tout à fait. Alors, il y a un paquet de films, je n'ai pas tout cité, mais elles sont, le bouquin, il est intéressant parce qu'elle cite énormément de films où elles expliquent cette
vision-là. Sur ce coup-là, je suis assez d'accord avec toi. J'ajouterais juste que les hommes aussi peuvent être filmés de façon quand même très...
Alors,
avec une vraie mise en valeur, le plan américain servait quand même à mettre en évidence dans les westerns les pistolets, les attributs virils.
Tout à fait, mais ça restait pas dénudé, tu vois, c'est un petit peu la différence quand même. Et c'était « je vais tirer avec mon pistolet ». Ils agissaient, la femme, elle est quand même vraiment vue comme, plus comme un objet. En fait, ce qui est problématique, en tout cas le constat que font les autrices cet ouvrage, c'est que en fait, ce sont devenus des codes. C'est-à-dire que inconsciemment, quand on voit ces plans-là, on sait que la fille, elle est sexy, qu'il doit y avoir une attirance. C'est quand même beaucoup plus rare de présenter ou de montrer des personnages masculins de cette manière-là. Je parle des trois éléments, et t'as raison, hein, le plan américain, il existe, mais c'est très rare qu'on voit un homme... en commençant par les pieds et en remontant avec le panorama vertical... Il n'est pas érotisé, objectifié.
En fait. Voilà.
Même si, voilà.
Il n'y a pas une partie de son corps qui est.
Madame le prof de français, réifié.
Réifié.
Même moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire.
Réifié, c'est chosifié. Ça vient de res rei, qui veut dire la chose en latin.
Merci,
cher ami.
Les profs.
Et puis, dernière chose, quand même, vraiment capitale à mon sens, ce sont toujours des femmes jeunes et minces,
voire très jeunes
et très minces qui sont filmées de cette façon. Les cinquantenaires un peu rondes, on les voit jamais comme ça.
Bah déjà, elles ont plus de mal à trouver...
On les met au régime.
Trouver des rôles.
Voilà. Hein, et oui, mais quand elles ont des rôles, en fait, elles sont pas filmées de cette façon. Qu'est-ce que notre inconscient enregistre là-dedans? Qu'une femme, pour être sexy et attirante, elle doit être jeune et mince, et voilà comment on crée de l'anorexie ou des lifting à outrance. Voilà. Deuxième idée, donc j'ai dit, hein, là, j'ai parlé de la manière dont le corps des femmes est filmé, la parole des femmes maintenant, dans les films. Alors quelques chiffres concernant d'abord les films pour enfants. Dans les films pour enfants, un personnage féminin pour trois personnages masculins. Les trois quarts du temps de parole sont pour les personnages masculins. 83% de ces histoires sont racontées du point de vue d'un personnage masculin. Et en gros, bah, si on schématise, hein, pour les petites filles et les petits garçons qui regardent ça, c'est les garçons qui parlent et les filles qui se taisent. C'est la même chose, en fait. Enfin, c'est assez proche dans les films pour adultes. Alors, quelques chiffres...
Ouais, ça ne doit pas être si éloigné que ça, oui.
Aussi.
Tout à fait.
On a beaucoup de personnages féminins qui restent sans voix. En 2019, on a deux fois plus de personnages masculins que de personnages féminins qui parlent au cinéma. Dans The Irishman, donc le dernier film, alors à l'époque du bouquin, je ne sais pas si on a d'autres, qui est sorti de Scorsese, qui dure 3h30, le personnage de la fille du héros, qui s'appelle Peggy, prononce un total de 7 mots. Pour finir, attendez, accrochez-vous bien, dans la trilogie des premiers Star Wars, donc les trois premiers, si on ne compte pas Leia...
Ouais.
Tous les autres personnages féminins réunis parlent 63 secondes sur 386 minutes. C'est quand même un petit peu un peu fou.
This is a man's world.
Voilà. Et alors, j'en arrive toujours à cette idée de, effectivement, main world, à ce concept qu'on entend un peu ces derniers temps de male gaze.
Ah.
Hein, le male gaze, alors donc, male pour comment on traduirait masculin littéralement, voilà, et ouais. gaze pour regard insistant.
D'accord.
Donc, il s'agit en fait de la manière dont le regard masculin traite les femmes comme des objets au cinéma.
Mmh. Donc, la caméra est le regard masculin insistant, d'accord?
Absolument. Alors, je vous lis encore deux petits passages de mon livre où les autrices nous disent que l'universitaire anglaise Laura Mulvey est à l'origine de ce concept de male gaze, qu'elle s'est aperçue en regardant des films américains des années 50 que les femmes désirables étaient filmées comme des objets, en morcelant leur corps pardon, à travers les gros plans, en coupant leur tête du cadre. Hein, Hollywood imposait dans le monde entier sa vision de ce qu'est une femme désirable, un bel objet silencieux. Les autrices nous disent encore, le male gaze est lié à la domination. Celui qui regarde possède le pouvoir. Il ne peut pas y avoir d'égalité entre deux personnages si l'un d'eux ne sait pas qu'il est observé.
Et puis celui qui regarde est un homme. Et tiens, c'est étonnant, l'écrasante majorité des réalisateurs sont des hommes. Il suffit de regarder les performances du Festival de Cannes
ben, j'ai
sur
des chiffres,
ces 70 alors, dernières années.
Tu sais quoi, j'y viens juste après. Je vais y venir. Alors, je voulais juste dire encore un truc.
Oh, j'ai cassé son plan.
Sur le male gaze,
t'as vu,
pour finir,
je rebondis
juste après. Le male gaze peut aussi être produit par des femmes, même si c'est une vision
bien
très
sûr.
Patriarcale, en fait, hein, qui est dominante.
Mm-hmm.
Je donne un exemple, Samantha Taylor Johnson, qui a adapté 50 nuances de Grey au cinéma. Elle filme constamment le corps d'Anna comme un objet, alors que celui de Christian Grey n'est jamais montré de cette façon-là.
D'accord.
Et encore une fois, le problème, c'est que ça façonne notre inconscient collectif.
En psychanalyse, on appelle ça l'identification à l'agresseur.
Mm. Alors, du coup, je vais...
Stockholm.
C'est encore autre chose, je pense.
C'est un peu autre chose, mais en tout cas, je vais rebondir du coup sur ce que tu as dit, Patrick. La cause possible de tout ça, on n'a que 12% de femmes réalisatrices. Alors, dans les écoles de cinéma, on a 50-50 hommes et femmes. 20% de scénaristes femmes, 2% de chefs opérateurs femmes.
Mmh.
Une seule femme, Catherine Bigelow, pour Des Mineurs, a reçu un Oscar de la meilleure réalisatrice en 2010.
Ouais.
Seulement 5 femmes nominées entre 1929 et 2020 sur 91 cérémonies.
Mmh.
Il faut attendre 2021 et 2022 pour que deux autres femmes soient nommées, Chloé Zhao et Jane Campion.
Ouais.
Jane Campion, qui est également la seule femme à avoir obtenu une Palme d'Or à Cannes.
Il y en a eu une ou deux depuis, mais on voit que Cannes, c'est les mêmes chiffres. C'est les mêmes
répartitions. Voilà, les chiffres sont très, très
totalement.
Proches.
Ouais, ouais.
Et du coup... par rapport aussi à ce que disait tout à l'heure Jean-François sur les types de femmes. J'ai perdu ma page, mais j'y reviens.
Alors là, il y a un blanc, et c'est pas bien la radio, le
mais
blanc.
Ça y est.
Qu'est-ce que tu nous
Alors
fais
voilà,
Tu nous
en
fais
fait,
un blanc
voilà, tout à l'heure, Jean-François disait que dans la fameuse série dont on parlait, il y avait des archétypes variés.
Ouais.
Et ben, faut savoir que dans la plupart des séries et au cinéma, les personnages féminins, il y en a 4 en fait. 4 archétypes.
Ah, oui.
La badass... La femme forte, hein, dans Arya, dans Game of Thrones, par exemple.
Mm-hmm.
Manic Pixie Dream Girl, voilà. littéralement, la fille de rêve un peu fofolle.
D'accord.
Comme Kate Winslet dans Eternal Sunshine, par exemple.
D'accord.
La girl next door, la fille d'à côté, la voisine, qui est un peu banale, pas très intéressante.
Mm-hmm.
Et puis, la femme fatale, celle qui met les hommes en danger.
D'accord.
Et en gros, voilà ce qu'on voit au cinéma des femmes, principalement.
Très bien. Et pour conclure, si tu nous parlais de Game of Thrones, rapidement. Rapidement, parce que leur tourne.
Le test de Bechdel, j'ai
le temps
d'en dire
Bechdel,
trois mots.
Ouais, vas-y,
ah ouais,
trop
carrément.
Intéressant celui-là.
Alors, le test de Bechdel, ça vient d'Alison Bechdel, qui est une autrice de BD, qui fait parler en fait, deux de ses personnages dans un strip. L'une d'elles dit à son amie en fait, qu'elle a 3 critères pour aller voir un cinéma. Donc, le strip, il s'appelle La Règle. C'est dans la BD qui s'appelle Lesbienne à suivre. Et donc, ça a donné le test de Bechdel. Vous allez voir, c'est hyper simple. 3 questions.
Très efficace.
Est-ce qu'il y a au moins 2 personnages féminins et connaît-on leur nom? 2. Ces deux femmes se parlent-elles? 3. Leur conversation porte-t-elle sur un sujet autre qu'un personnage masculin? C'est tout simple, hein? Accrochez-vous. On peut lire dans Télérama que 53% des films en général ne passent pas ce test, d'après le site Polygraph, qui a quand même passé au crible plus de 4000 des plus grands films de ces 20 dernières années.
Mmh.
Alors, ça vaut surtout pour les films écrits uniquement par les hommes. Hein, quand il y a des femmes, soit à la réal, soit au scénario, le chiffre descend. Et quand, notamment, au moins une femme est dans l'équipe de décideurs, ça peut tomber à 9%. Hein, ils ont passé le test selon plusieurs règles.
Très bien, Emma. Eh bien, écoute,
Game of Thrones ?
Non, on n'a pas le temps. Nous allons conclure. On ne va pas conclure du tout. On va surtout passer une chanson. Et c'est Sharon Van Etten.
Poker Menteur.
Calade.
Vous écoutez Poker Menteur sur Calade 100.9. Notre émission ne touche pas à sa fin, mais s'approche de sa fin. Mission au fil de l'eau où nous parlons de divers sujets avec la fine équipe, donc Emma, Geneviève, Jean-François et moi-même. Vous venez d'écouter Sharon Van Etten, Never Gonna Change, une très belle chanson, très triste, et que je détourne affreusement pour introduire mon sujet. Il y en a un qui ne change jamais, c'est un certain Didier Raoult. Excuse-moi Sharon, c'est horrible de te lier à ce personnage. Oui, je vais vous parler de Didier Raoult, messieurs et dames, dans cette dernière partie. Pourquoi ? Parce qu'il est de retour, le monsieur. Il est de retour et il n'a pas changé lui non plus. Non, il n'a pas changé. Il est toujours dans son combat pour faire reconnaître l'hydroxychloroquine comme un bon traitement contre le Covid. Alors donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, il a relancé une étude. Alors, c'est pour une fois, il n'a pas fait les choses à moitié. Il y a 30 000 patients qui vont se transformer en 23 000. Je vais vous dire pourquoi. Pour lesquels il a...
Non.
Il a administré l'hydroxychloroquine et le résultat de son étude, il dit, c'est formidable, hein, ça marche. Donc, bon, alors, spoiler alerte, la science depuis 3 ans a prouvé, il y a un consensus scientifique au sens où on l'entend en science, sur le fait que ça ne fonctionne pas l'hydroxychloroquine. D'accord, il y a des méta-études à foison, en veux-tu, en voilà. Mais lui, non, il ne désarme pas, et il veut toujours sauver son bébé, c'est-à-dire prouver l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Alors je vous détaille un peu ça. Hein. Début avril 2023, le prof Didier Raoult, qui avait quitté, je vous rappelle, l'IHU en septembre dernier, publie avec d'autres membres de son équipe ce qu'on appelle un préprint, c'est-à-dire une version d'une étude pas encore relue par ses pairs, ce qui sait que dès qu'il s'est relu, ça se gâte. Et donc cette étude revient sur un essai qu'il a pratiqué entre le 2 mars 2020 et le 31 décembre 2021, et durant laquelle il a testé 30 423 personnes qui étaient positives au Covid-19 et qui étaient traitées à l'IHU, donc traitées à l'hydroxychloroquine. Donc surprise, il nous dit « c'est formidable, ça marche ». Genre un mois après, l'étude est rétractée par ses auteurs. Okay. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'avec Raoult, c'est un peu toujours la même chose quand même. Donc déjà, un point de départ, on peut dire que son équipe et lui-même, ils ont enfreint les règles. Ils n'ont demandé aucune autorisation à l'Agence nationale de sécurité du médicament, ce qui est obligatoire normalement pour faire un essai clinique. Et certains ont dit que c'est le plus grand essai thérapeutique sauvage dans le domaine de la santé qui a jamais été fait.
En fait, concrètement, ils ont administré ce médicament sans autorisation.
C'est interdit surtout. Il est interdit depuis le mois de mai 2020 et ils ont continué leur étude. Alors si on a une lecture un peu superficielle, on peut se dire, ils nous cassent les pieds avec leurs autorisations administratives, bande de fonctionnaires, laissez les vrais scientifiques travailler, etc. Et on pourrait dire, dans le discours raoultien, c'est pas mal comme point de vue. Quand on y regarde de plus près, en fait, c'est pas ça du tout, c'est que c'est extrêmement grave parce que les autorisations, c'est pas pour faire joli, c'est pour protéger la santé des personnes et des patients. Ouais, tout à fait. Et donc,
c'est pas la jungle en fait, un essai.
Voilà, exactement. Et si ils avaient fait une demande dans les règles de l'art, Raoult et son équipe, ça aurait été refusé parce qu'on sait que l'hydroxychloroquine est dangereux pour la santé. Il y a des preuves qui sont maintenant certaines. Par exemple, on sait que sur la seule première vague du Covid en 2020 et pour les seuls malades passés par l'hôpital, on a 16 000 patients qui sont morts parce qu'ils ont ingéré de l'hydroxychloroquine.
Et j'étais pas si loin de la vérité tout à l'heure.
Ouais. On sait que la surmortalité chez les patients qui sont traités à l'hydroxychloroquine par rapport à ceux qui ne sont pas traités à l'hydroxychloroquine est de 11%. Et on a des méta-analyses qui ont été publiées dans la revue Nature en 2021 qui le confirment. On a lui-même le groupe Sanofi qui vend de l'hydroxychloroquine qui a publié une étude dans Nature en 2021 qui confirme aussi ce danger pour la santé. Donc tout ça, on le savait. Et le 26 mai 2020, le gouvernement l'a interdit. Mais ça n'a pas empêché l'équipe de Raoult de continuer son étude. Pourquoi ils trouvent que ça marche? Ils ont dit, sur les 30 000, on a enlevé ceux qui étaient fragiles, qui pouvaient avoir des problèmes, donc les plus âgés en quelque sorte. Donc ils en ont enlevé 7 000 sur les 30 000, ils en ont gardé 23 000. Le seul problème, c'est que les 23 000 qui gardent ont une moyenne d'âge de 47 ans, ceux qu'ils ont enlevé de 55 ans. Donc évidemment, on influence ces résultats en gardant des gens plus jeunes, donc inévitablement, on va avoir des résultats meilleurs. Donc on fait des comparaisons, en comparant des choux et des haricots, je sais pas, des choses comme ça, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas comparables.
On regarde que les données qui nous arrangent, quoi, finalement.
Voilà, on compare avec un groupe plus jeune qui va automatiquement générer des données meilleures, en quelque sorte.
La méthode scientifique, quoi.
C'est la conception de la science de M. Raoult. C'est les mêmes trucages et biais méthodologiques qu'il a eu dans ses 3 études en 2020. Alors, pour information, il y a un poker menteur en septembre 2020 consacré à Didier Raoult, où j'ai tout détaillé. Donc, je mettrai en lien l'émission, ceux qui veulent y retourner. Pour information aussi, l'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, a fait un rapport sur cette étude dont on parle actuellement. Et elle a retrouvé les mêmes types de falsifications qu'il y avait dans ses premières études, des données qui ont été changées, des patients qui disparaissent de l'étude, bref, toute une chose qu'on appelle de la fraude scientifique. Donc ça ne vaut rien scientifiquement. Raoult ne fait que confirmer ses croyances. Il croit à l'hydroxychloroquine, mais il ne pratique pas de la vraie science, messieurs, dames. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?
Mais il ne pratique pas de la vraie médecine.
Ouais, en plus, ouais.
Moi, je comprends pas qu'il soit pas encore sous les verrous, cet homme-là, parce qu'il a mis des gens en danger, concrètement.
Mmh. Ouais, tout à fait. En fait, il a une grande puissance médiatique. Il fait peur, hein. Il fait peur, et donc les retours de bâton ont été longs à venir parce que il y a derrière, il y a quand même des mouvements sociétaux très forts, très agressifs, très violents. Beaucoup de scientifiques se sont tus à l'époque parce qu'ils avaient très peur des déchaînements de violence à leur encontre, bien sûr, ouais, totalement. Totalement.
Parce que
d'ailleurs,
c'est une figure de proue complotiste. Hein,
voilà.
Enfin, qui, voilà. À un moment donné, ont pu inspirer des mouvements.
Oh, puis tiens, des discours complotistes maintenant au niveau de la vaccination.
Mais comment ça se fait qu'il n'est pas enrayé de l'ordre des médecins
parce que je vous dis, ils ont assez peur quand même. Mais bon, là, on verra si la machine légale se met en route en quelque sorte. Alors donc, on en est là, étude bidon, rétractée comme d'habitude, donc qui ne convaincra que les convaincus. Et le consensus scientifique n'a pas bougé. L'hydroxychloroquine n'a aucun effet et en plus, il est mauvais pour la santé. Je crois qu'on a fait à peu près le tour, messieurs dames, de notre émission au fil de l'eau.
Merci Patrick.
Quelques petits mots de conclusion. Alors, allez, chacun ses mots de conclusion. Jean-François, tes mots de conclusion.
Eh ben, super émission, j'ai beaucoup apprécié.
Jean-François à la technique.
D'Emma sur le Melguez, ouais, c'était chouette. Analyse en plus cinématographique, j'adore le cinéma, donc c'est parfait. Merci.
Je suis contente de te l'entendre dire, Jean-François.
Alors Emma, à toi.
Moi, j'ai apprécié toutes vos interventions et j'ai un peu déçu qu'on ait squeezé le débat Game of Thrones, mais je crois que ça aurait été sanglant.
Peut-être qu'on reparlera de Game of Thrones, hein. ça sera peut-être intéressant. Geneviève ?
Moi, j'ai trouvé ça intéressant aussi de ne pas se fixer un cadre trop strict avec un seul thème et que chacun aille un petit peu en fonction de ses envies. Et c'était quatre chouettes chemins.
Très
bien. Promenez-vous bien.
Et bien tout ça pour annoncer un bel été. Passez, chers auditeurs, un bel été. Et attention, on a quand même une émission en juillet, donc à dans un mois.
Poker menteur.
Avec Geneviève Huglot dans le rôle de Geneviève Huglot.
Et Patrick Trouilloux dans le rôle de Patrick Trouilloux.
Poker menteur. L'émission qui interroge le monde.
De Villefranche à Tataouine.
Galade. 100.9.